en sol majeur vous propose une rediffusion avec Sylvia Serbin, reine d'Afrique ou reine du monde ?
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Un peu de sang, de carte géographique et d'ancrage. Une goutte de Madras, une tranche de Côte d'Ivoire, une petite coupelle de France et une belle assiettée de Martinique. Voilà un parcours qui en a fait une reine du monde. Sylvia Serbin, un nom familier sur RFI, qui accueille régulièrement cette voix de journaliste historienne, auteure de l'indispensable Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Enfin, de quoi nourrir nos têtes brunes et blondes, de quoi les faire rêver avec les parcours exceptionnels de ces héroïnes noires qui ont marqué dans le temps l'histoire du continent et de sa diaspora. Qu'elles aient été reines, politiciennes, esclaves, amazones, guerrières ou victimes, de la reine Zinga d'Angola à Sogolon Kedju, la bossue, chacune mérite de sortir de l'anonymat. Bienvenue en sol majeur, Sylvia Serbin.
Bonjour et merci de m'inviter.
C'est un plaisir. Est-ce que vous avez, comme je sais que vous voyagez pas mal, vous avez voyagé beaucoup, est-ce que vous avez un objet qui vous suit dans vos voyages d'aujourd'hui et d'hier peut-être ?
C'est vrai que je continue de voyager beaucoup, mais je n'ai pas beaucoup d'objets fétiches, d'autant que les valises sont de plus en plus réduites maintenant. Donc j'ai mon petit ordinateur portable, mon petit fer à repasser de voyage et puis des documents.
Votre petit fer à repasser de voyage, celui qui m'intéresse.
C'est indispensable pour moi, oui.
C'est lui qui vous permet de partir de votre Versailles chéri, c'est ça, hein, votre ancrage d'aujourd'hui, pour faire le tour du monde impeccable.
Et d'arriver non froissé. Voilà.
Très joli. En tout cas, dans votre désormais, il y a ces sons qui chantonnent en vous intérieurement.
Ta-da.
Are you prepared to take the oath, Senator?
I am.
I, Barack Hussein Obama,
do solemnly swear
that I will execute the office of President to the United States faithfully.
And I will execute
the office of President of the United States faithfully. And will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Comment se fait-il que tous les autres pays ont des femmes célèbres et pas les gens comme nous ? Les Indiens ont Pocahontas, les Américains Calamity Jane, les Français Jeanne d'Arc, les Anglais la Reine Victoria, et nous on n'existait pas avant.
Mais dites-moi, Sylvia Serbin, on a besoin de vos lumières. Alors à quoi correspondent tous ces sons pour vous ?
Alors le premier, c'était une des musiques du film Orfeu Negro qui m'avait beaucoup touchée à l'époque quand je l'avais vue et quand je suis allée deux ou trois fois au Brésil. Et chaque fois, c'est une chanson qui s'impose à moi parce qu'elle dit beaucoup de choses. Il y a des choses du Brésil qui n'ont pas évolué, notamment ces populations qui se battent tous les jours pour avancer, mais qui gardent une grande foi, une grande espérance. Donc cette chanson, c'est Mañana de Carnaval, je crois, d'Orfeu Negro. Ensuite, le second son, c'est Obama, sa prestation de serment quand il a été élu président. Pour moi, ça représentait une formidable gifle de l'histoire.
Absolument,
parce que c'était inimaginable et pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Vous n'êtes pas une déçue d'Obama ?
Ah non, pas du tout. Je pense qu'on met trop de choses sur l'épaule d'un seul homme, quel que soit l'homme de pouvoir d'ailleurs, parce qu'il doit représenter tout un peuple. Et en son temps, sur une génération, il ne peut pas transformer une société qui a ses tares ou ses côtés positifs depuis des générations. Mm-hmm. Et puis le troisième son, c'est l'introduction à mon livre « Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire ». C'était une question de ma fille qui avait à l'époque 8 ans Et c'est ce qui m'a poussée à vouloir en faire un livre, parce que je faisais ces recherches pour moi, pour mon plaisir personnel. Et quand elle m'a posé cette question, ça m'a interpellée. Je me suis dit, il faut que je puisse apporter un contenu à ces jeunes, à ces enfants qui se posent des questions sur d'où ils viennent, est-ce qu'ils avaient une histoire.
Pourquoi moi, petite fille noire, je n'ai pas de reine à
voilà,
qui m'identifier.
Exactement.
Donc vous lui avez répondu par un 300 pages qu'on ouvrira tout à l'heure. Et c'est pour toutes les petites filles noires ou blanches d'ailleurs,
hein,
qui
oui.
cherchent dans le miroir des figures héroïques. Votre histoire d'auteur concernée par ces figures, Sylvia, commence sur le continent avec la voix mandingue du grand Sori Candia Kouyaté. Qu'est-ce qu'elle vous rappelle, cette voix qu'on va écouter dans un morceau qui s'appelle Nina ?
Nina, oui, c'est une belle chanson d'amour en plus. Cette chanson a bercé mon enfance, hein, puisque je suis née à Saint-Louis du Sénégal et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans. Et ensuite, je suis venue faire mes études en France et j'y suis retournée régulièrement. J'y étais encore il y a quelques mois. Et quand j'essaie de retrouver des chansons qui m'ont marquée, c'est toujours celle-là qui revient par ce foisonnement musical, par toutes ces voix qui s'harmonisent. Enfin, ce sont des choses qu'on n'oublie pas.
Mais hein, c'est une culture mandingue, c'est loin.
Voilà, tout à fait, oui, oui. Donc, j'ai vécu là-dedans aussi au Sénégal.
Et en Côte
c'est
d'Ivoire.
C'est pour ça. Et en Côte d'Ivoire aussi.
B comme berceau de l'humanité.
On y est presque dans ce berceau où vous êtes née donc en 1951, Sylvia Servin, à Saint-Louis du Sénégal, comme vous nous le disiez tout à l'heure, née donc sur le continent avec, d'après ce que j'ai compris, des ancêtres venus du tout monde, ou presque.
Presque, hein, mais je crois que ça reflète un peu ce qu'est ce monde d'échange, de voyage, de progression des hommes vers des destinées différentes.
Alors, donc, du côté paternel, c'est votre heure première de conteuse, hein, parce que c'est digne d'un conte, hein, votre histoire familiale.
Alors, mes parents étaient originaires de la Martinique. Et donc, assez jeune, mon père était inspecteur dans l'éducation nationale et j'ai appris par un chercheur qui faisait une thèse sur l'éducation en Afrique qu'il a été le premier inspecteur noir de l'AOF, donc j'étais assez fière, j'ai découvert très tard, mais voilà. Et ma mère était enseignante. Donc ils sont partis tous les deux en 1950 au Sénégal, parce que je pense que le cadre antillais peut-être leur semblait trop étroit pour eux. C'était des intellectuels aussi d'un assez grand niveau. Et donc ils sont partis au Sénégal et nous sommes nés, mais j'ai deux frères, une sœur, et donc voilà. Et mon père a travaillé presque toute sa carrière au Sénégal avec le président Senghor, qui était en train de transformer les programmes à l'époque. C'est pour ça que je dis que je suis aussi une enfant de la négritude, parce que je me suis rendu compte après, quand je rencontrais des gens de ma génération d'autres pays africains, quand ils apprenaient nos ancêtres, les Gaulois, nous, on apprenait les grands royaumes d'Afrique. Et c'est ce qui m'a aussi forgé et qui m'a donné envie déjà de savoir que j'avais un patrimoine historique sur le continent et peut-être qui m'a inspirée pour ce livre que j'ai écrit plus tard.
Toute petite déjà.
Voilà, assez jeune.
Mais si on remonte l'arbre lui-même, l'arbre généalogique.
Alors, si on remonte dans le passé, je pense que c'est assez particulier. Donc, mon père est un homme noir et les premières traces que j'ai trouvées de sa famille, c'est après l'abolition de l'esclavage. Hein, c'est dans les années 1850, donc l'abolition ayant été en 1848. Et ma mère, elle était métissée, ce qu'on appelle, enfin, il y a des noms là-bas, je ne sais pas, c'est mulâtresse ou je ne sais trop quoi. Elle était claire. Et elle est issue d'une histoire assez particulière puisque sa grand-mère était une jeune femme blanche, fille d'un planteur de la Martinique, qui était un ancien capitaine de navire négrier, qui avait fait fortune. Et cette jeune femme est tombée amoureuse du jardinier, qui était un homme libre. Hein, donc, il louait ses prestations à plusieurs grandes plantations du bourg.
On appelait ça un noir libre à talent.
Voilà, un noir à talent. Et elle est tombée amoureuse de ce jeune homme. Donc, scandale, parce que c'était inimaginable. Dans d'autres familles, on l'aurait sûrement tuée, cette fille, mais elle était très aimée de son père. Et donc, finalement, on a décidé de l'expatrier très, très loin de la zone d'implantation familiale. Il lui a donné des terres, il lui a construit une maison où elle a pu vivre avec cet homme. Mais elle avait interdiction de porter le nom, le patronyme d'origine, Blanc, pour qu'on ne sache pas d'où elle venait. Donc, elle a été la compagne de cet homme. Ils se sont mariés après, puisqu'à l'époque, les mariages interraciaux étaient interdits. Elle a eu 7 enfants. Et donc, ma mère est issue d'un des fils de cette femme.
Et alors, Madras, dans cette cartographie familiale, c'est à quel moment ?
Ah ben, du côté de mon père, vous savez, les mélanges, voilà.
Vous n'êtes plus à sa près, quoi.
Non. Et ma grand-mère, et donc ce grand-père qui est né de ce mariage mixte, d'une blanche et d'un noir, a lui-même épousé une indienne de Madras. Donc, qui était la mère de ma mère. Donc, c'est pour ça que ma mère avait un type particulier.
Et alors, pour vous, Sylvia Serbin, qui vivait donc au début de votre vie sur le continent avec des origines antillaises, comment vous vivez cette histoire de métissage ? Est-ce que ça produit des questionnements chez vous ?
Disons que tant que j'ai vécu sur le continent africain, je ne me suis jamais posé de questions sur mon origine parce que j'étais dans un milieu où je ne différais pas des autres, peut-être socialement parce qu'on avait un niveau social assez élevé, mais sinon on ne me faisait pas de remarques particulières. Et par contre, nous allions en vacances tous les 2 ans aux Antilles, et c'est là où j'ai remarqué que c'était important pour les gens de savoir de quelle famille, d'où est-ce que c'est des blancs, est-ce que c'est quel genre de noir et tout. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre le poids de ces différences dans une société post-esclavagiste. Mais je considère tout ça comme une richesse. Hein. De toutes les façons, je suis le produit de plusieurs hasards qui se sont rencontrés. Et pour moi,
de plusieurs paradoxes de l'histoire
voilà,
aussi.
De plusieurs paradoxes de l'histoire. Donc d'avoir dans mes veines du sang indien, du sang blanc, du sang noir et ce bain culturel en Afrique qui m'a aussi beaucoup marquée. Pour moi, je me sens riche de tout ça.
Reine du monde, c'est ce que je disais. Est-ce que l'histoire de la déportation, cela dit, se racontait un peu dans la famille ?
Non, dans cette génération-là, on parlait très très peu. Et même aujourd'hui, vous allez voir dans certaines familles bourgeoises qui refusent totalement le sujet. Et une fois, j'ai voulu, adulte, quand j'étais allée, j'avais voulu interroger la mère d'une amie assez âgée. Et elle dit non, on ne veut pas en parler parce que ce sont les Africains qui nous ont laissés partir et ils n'ont jamais témoigné soit de regrets, ils ne se sont jamais intéressés à nous. Donc, il y avait une espèce de fracture. Et je me rappelle que dans l'enfance, quand nous allions aux Antilles, les enfants ne voulaient pas jouer avec nous parce qu'on venait d'Afrique et ça nous choquait énormément. Et pendant longtemps, pour moi, les Antilles, ça enfin, je ne voulais pas y aller.
C'est compliqué.
Et adulte, plus tard, aujourd'hui, ça a changé dans les jeunes générations. Ils recherchent leurs racines africaines. Et je pense que c'est à la fois, ça fait partie des divisions que la colonisation a imposées, mentales, hein, vous êtes différents de ces gens, et le fait qu'on ne se soit pas du tout parlé et que les gens n'avaient pas de référence pour savoir.
Et sur le plan de la culture, alors, parce que là, on a vraiment l'impression que vous étiez une petite fille d'expatriée, finalement, qui a reçu une culture française, la grande et belle culture française. Est-ce que vous absorbiez, vous étiez un peu buvard des cultures qui vous entouraient? Est-ce que le créole est rentré dans votre couffin? Est-ce que le wolof, le dioula, enfin, toutes ces langues qui étaient dans votre quotidien familier?
Bon, je sais que dans mon enfance, je parlais couramment le wolof. Et quand on est arrivé au lycée Blaise Diagne à Dakar, on nous interdisait de parler le wolof. Et c'était dans les règles à l'époque. Mais je le comprends toujours très bien. Je n'ose plus le parler parce que je suis plus aussi sûre de moi. Mais c'est resté en moi. Donc je comprends presque mieux le wolof, je dirais, que le créole. Mais il y a tout ça en moi, hein, de toutes les façons.
Et alors, la reine du monde que vous êtes, c'est quoi son premier port d'attache, finalement, avec toutes ses appartenances?
Bon, j'en ai eu plusieurs, mais maintenant, en vieillissant, j'en ai qu'un. C'est ma ville où j'habite, près de Versailles, qui est une petite ville bien calme, et dont j'ai été conseillère municipale pendant 13 ans, quand même.
Ah,
et
oui.
J'ai été la seule noire, et j'étais assez fière aussi. Hein. C'était un parcours...
C'est triste en même temps, hein, ce que vous dites.
Oui, mais disons que c'était de 2001 à 2014, mais l'Union européenne avait demandé qu'on s'ouvre à la diversité et aux femmes. Donc, je remplissais les deux critères. Femmes.
Vous faisiez partie des quotas.
Exactement. Et ça a été une expérience qui n'était pas prévue du tout dans mon parcours que j'imaginais et que j'ai beaucoup aimé.
Alors moi, pour un seul majeur, je dirais que votre port d'attache, il est un peu entre les... Si on regarde dans le temps, hein, votre histoire, entre les sonorités mandingues qu'on vient d'écouter et puis le style Begin, puisque vous avez programmé pour un seul majeur la bande-son de Begin, qui est un film de Guy Deslauriers, un réalisateur martiniquais.
Voilà.
En quoi il vous a touché, ce film?
En fait, ce film m'a appris tout ce que je ne connaissais pas des Antilles, puisque quand on était en Afrique, mes parents nous parlaient assez peu des Antilles. Par contre, on était bien intégrés dans le milieu au Sénégal. Et toute cette culture que j'avais traversée de façon assez superficielle, quand on va passer 2 mois de vacances quelque part et qu'on n'aime pas trop l'environnement.
Être traité d'eux.
Voilà. Voilà, on s'y ouvre pas vraiment. Et quand j'ai vu ce film, ça a déclenché une certaine émotion en moi. Et j'ai dit, ce sont aussi mes parents et les sons m'ont parlé. Et j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'est là que ça m'a réconciliée un peu presque avec ces racines martiniquaises que je n'avais pas fait l'effort vraiment d'intégrer en moi.
Lorsque vous lisez le journal, quelle est la première rubrique que vous consultez?
Question à la journaliste.
Toujours les actualités internationales. Je suis vraiment passionnée et j'ai transmis ça à ma fille parce que des gamines, hein, enfin, elle m'a posé cette question à 8 ans, mais elle regardait les infos avec moi, alors que ses autres copines à l'école étaient complètement, enfin, en dehors de tout ça. Peut-être le fait aussi d'avoir voyagé, d'avoir découvert des choses dans mon enfance, d'avoir vu comment les gens avaient vécu, quels étaient certains drames dans certains pays. Mais et puis, dès l'âge de 10 ans, je lisais Le Monde. Donc,
et puis Life Magazine même, tiens.
Et Life Magazine, parce qu'il y avait des photos sur tous ces conflits qu'il y avait dans le monde. Et c'est pour ça que c'est resté. Donc aujourd'hui, je ne peux pas rester une journée sans écouter la radio pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ou bon, voilà.
Alors c'est vrai que ce goût de l'information, il est passé, comme vous le disiez, par le goût du voyage qui a été entretenu par vos parents, qui un jour eux-mêmes vont passer par Alger en 1962. Vous faites évidemment partie du voyage. Alger 1962, c'est cette période douloureuse pour les pieds noirs qui, contraints de quitter leur terre natale, débarquent dans la métropole.
Madame, s'il vous plaît, puis-je vous demander de quel coin précis vous arrivez ?
À Alger ?
Oui. Est-ce que vous avez eu des difficultés à prendre l'appareil ?
Oh, plutôt, oui.
Est-ce que vous pensez rester définitivement en France ?
C'est impossible de retourner.
C'est ça.
C'est impossible. C'est pourquoi les femmes et les enfants viennent.
Et comment était la situation au moment de votre départ ?
Affreuse, monsieur. On ne peut pas dire autre chose. C'est terrible.
Vous avez des parents en France ?
J'ai toute ma famille.
Par conséquent, vous allez décider
non,
maintenant.
Série, non, 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 en Algérie.
Elle est restée là-bas. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un pour vous rejoindre ?
On peut imaginer pour un sol majeur Sylvia Serbin sur le port d'Alger en 1962. La petite fille de 11 ans que vous êtes à ce moment-là se remarque quoi ?
Vous savez, l'élément sonore qui vient de passer, ça me ramène à la même émotion que je pense qu'enfant j'ai dû ressentir. Donc nous étions sur un paquebot, on quittait le Sénégal et on allait en France en vacances. Et donc on a fait une escale, c'est pour expliquer un peu le contexte, dans le port d'Alger. Et qui était vraiment inondé de gens et beaucoup de femmes et d'enfants avec des fois juste une petite valise et désespérés qui voulaient absolument qu'on les prenne à bord. Mais pour des raisons de sécurité, on nous avait interdit de descendre. Donc j'étais sur le pont, on regardait tous. Et je ressens cette émotion parce que l'enfant que j'étais ne comprenait pas. Heureusement, à travers les journaux, Le Monde, je savais qu'il y avait eu la guerre. Et je voyais ça concrètement. Et curieusement, les adultes observaient. Et c'est nous, les enfants, qui demandions « Mais pourquoi on ne les aide pas ? Pourquoi on ne fait rien ?» Et il y avait un officier qui nous a dit « Il y a un bateau spécial qui va venir les chercher. » Mais ça n'est jamais sorti de ma mémoire, alors que je n'y pense jamais. Mm-hmm. Mais quand il a fallu, par exemple, réfléchir à un certain nombre de choses, c'est la première image qui m'est venue, qui m'a marquée, bouleversée dans mon enfance, et ça m'a montré aussi ce qu'est le genre humain.
Les événements du monde, vous les vivez à hauteur d'enfance, mais de façon assez concrète aussi, du côté de Caracas, au oui. Venezuela, au lendemain d'un coup d'État militaire en 67.
Exactement, alors parce que mon père avait le goût des voyages et il voulait vraiment nous montrer plein de choses dans le monde, hein, dans la mesure de ses possibilités. Et on louait un taxi pour la journée qui nous montrait plein de choses et tout ça. Et il nous a montré, il nous a dit, je vais vous montrer les quartiers populaires et je vais vous montrer comment vit l'élite dans ce pays. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu des gens, enfin dans ce monde moderne, hein, qui vivaient dans des grottes. Tellement ils étaient pauvres, ils ne pouvaient pas trouver de maison. Mmh. Et après, on est allé dans les quartiers, on a d'ailleurs déjeuné dans un très beau restaurant, où c'était, on n'aurait même pas dit que c'est le même pays, une espèce d'insouciance insolente, le grand luxe, les belles voitures, comme à Cuba avant la Révolution. Et donc, voilà, je pense que c'est tout ça qui m'a donné envie de continuer à m'intéresser au monde et, voilà, et d'être journaliste.
Oui, voire plus que ça. Donc, vous arrivez à Paris, dans tous vos déplacements, vous atterrissez finalement dans la capitale où vous faites un double cursus, études de journalisme et d'histoire. Vous hésitez entre les deux ?
Non, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et non, j'ai pas hésité. Non, parce que je pense que c'était... Bon, journaliste, pour moi, c'était clair depuis mes 16 ans. Et l'histoire, pour mieux comprendre aussi ce monde qui nous entoure. Hein,
et puis, il faut dire aussi, vous avez cité le président Senghor, pour oui. lequel votre père travaillait
avec lui.
Donc,
voilà.
Vous avez, sur ce continent, croisé la crème, certaines figures historiques. Je pense notamment au président Houphouët Boigny.
Oui, quand j'ai vécu 14 ans en Côte d'Ivoire, où là aussi, je me suis énormément épanouie. J'ai adoré le temps où j'ai vécu là-bas.
Et quel souvenir vous a laissé le vieux, comme on l'appelait affectueusement ?
C'était quelqu'un d'impressionnant. Et donc, j'avais des amis qui étaient proches de lui, hein, qui faisaient partie de sa famille. Donc, j'ai pu assister à des événements familiaux où il était là. Mais c'était quelqu'un de très impressionnant parce que quand il commençait à parler, on ne pouvait que l'écouter. Et pourtant, jeune, assez critique d'une certaine politique et tout, mais on ne pouvait pas s'empêcher parce que c'est un homme très cultivé et puis qui savait remodeler l'histoire à son avantage, évidemment. Mais il avait une personnalité qu'on ne retrouve plus du tout dans les dirigeants d'aujourd'hui.
C'est clair. Donc, mais alors du coup, vous, bon, vous êtes journaliste, vous faites votre boulot, etc. Mais à quel récit national vous vous rattachez dans toutes ces déambulations que sont les vôtres,
Je m'intéresse vraiment à... Je vous dirais, sur Facebook, je regarde à la fois l'histoire du Sénégal, qu'est-ce qui se passe dans le quotidien.
Vous sentez concernée?
Ah oui, je me sens concernée parce que ce sont des choses que je connais, quand on parle de telle personnalité qui a détourné tant ou tel quartier. Donc je sais de quoi il s'agit. Sur la Côte d'Ivoire, c'est pareil. Je suis toujours dans ce même bouillonnement. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Et puis bon, ici, voilà. Sur les Antilles.
Ça va de soi. Sur les Antilles, rien.
Non, parce que c'est compliqué pour moi. Disons, je n'y ai pas vécu assez pour comprendre un peu la façon dont les gens réagissent, les modes de pensée, les modes de fonctionnement.
Pourtant, vous avez croisé Césaire.
Oui, c'est un homme de culture, donc on n'a pas parlé politique. Donc voilà. Mais
il faut parler politique pour que vous vous sentiez en être.
Non, mais lui, c'était un grand homme qui n'avait rien à prouver et qui était capable d'écoute de l'autre. Et jeune femme arrivant, j'étais venue lui offrir mon livre parce que quand j'étais allée faire une conférence en Martinique, on m'a dit « il faut absolument que vous offriez votre livre à Monsieur Césaire ». Donc on est allée et il était tellement d'une telle modestie et puis il était content. Il m'a dit « ah, j'ai découvert la Reine Zinga quand j'étais étudiant en 1936 ».
Vous parlez de votre livre, quel livre ?
Reine d'Afrique, voilà.
Déjà à l'époque ?
Oui, c'était en 2005. Reine d'Afrique. Et il me dit, ah, mais là, je découvre la suite de son histoire parce que j'avais juste vu quelques lignes sur elle. Et il a commencé à regarder, donc j'étais toute fière.
Oui, mais vous n'avez pas eu envie de raccrocher avec les wagons, je dirais, de vos origines antillaises avec lui dans la conversation?
Non, enfin, il connaissait mon père aussi parce qu'il a dit, ah, vous êtes la fille d'un tel. Il nous a bien servi en Afrique. C'est un de nos dignes représentants au Sénégal, puisque Senghor, c'était l'ami de Césaire aussi. Mais non, je parlais plutôt culture avec lui.
En tout cas, vous avez rencontré ce qu'on pourrait appeler les grands baobabs du continent de Wole Soyinka, donc à Césaire. Et puis la journaliste que vous êtes, Sylvia Serbin, a eu le grand privilège de rencontrer pour Radio France le grand poète guyanais Léon Gontran Damas et de réaliser avec lui ce qui sera sa dernière interview.
J'ai parfois l'impression de me trouver dans une époque qui procéderait d'une espèce de complexe de culpabilité. On découvre le nègre, on lui découvre des qualités, on l'embrasse, il a beaucoup d'amis, on l'étouffe le pauvre. On va finir par le rendre malade. Non mais pour être sérieux, la négritude n'est pas la condition du nègre. La fierté d'appartenir à une race qui a été avilie, qui a été matraquée, qui a été spoliée. C'est une affaire qui a été dénoncée pas d'aujourd'hui. D'aussi loin que l'on puisse remonter dans l'histoire, dans cette histoire douloureuse que fut l'aventure nègre, il s'est toujours trouvé des gens, des fils ou des phobes. Dans un poème que je viens de terminer, je déclare qu'en définitive, fil ou phobe, ça ne fait qu'un. C'est du pareil au même.
Sylvia Serbin, rencontrer Gontran Damas, qui était à la fois qui était un mulâtre, hein, qui était un métis, mulâtre, c'est ce qu'on disait en Guyane. Le rencontrer vous a laissé quelle empreinte, vous diriez?
Pour moi, c'était un coup de chance extraordinaire parce que je sais que cet après-midi-là, On avait eu un long débat avec Choinka et quelques autres. Enfin, on était plus un auteur américain. Enfin, on était vraiment bouillonnant là-dedans. C'était à l'occasion des 70 ans du président Senghor. Et il y avait une grande rencontre organisée à Dakar en octobre 1976. Et je vois un petit homme isolé dans un coin, dans un salon de l'hôtel où on était tous, au Teranga. Et je l'ai reconnu, je suis allée le saluer. Et j'ai dit que j'étais très flattée de le rencontrer. Et puis il m'a demandé d'où je venais. Et puis il m'a dit, bon, j'ai envie de parler un peu. Et il m'a dit des choses que jamais je n'avais lues ni entendues nulle part ailleurs. Il m'a dit toute sa frustration d'avoir été marginalisée par rapport à la notoriété qu'ont eu Césaire et Senghor, qui était, parce qu'au départ, c'était un trio, ces trois intellectuels qui ont vraiment porté tout ce qui est la négritude et le combat de la littérature noire dans le Paris de ces années-là. Et je me pince, enfin, c'est incroyable. Et il m'a fait un petit peu de peine. Et en même temps, j'ai senti qu'il était profondément sincère et que c'était un écorché vif. Mm-hmm. Et je pense que ça a dû profondément perturber sa vie d'avoir vécu un peu, d'avoir été relégué par rapport à d'autres.
Mais vous, je reviens à vous, Sylvia, rencontrer ces bâtisseurs de la négritude quand ce n'était pas de la tigritude pour Wole Soyinka, est-ce que c'était des questions que vous vous posiez à vous-même? Est-ce que vous étiez sur ces interrogations?
Ah, pour moi, c'était naturel. J'étais une jeune fille noire, intellectuelle, je lisais tous ces gens-là et j'avais l'impression de faire partie d'un combat. Et voilà, pour moi, ce sont des gens qui ont apporté quelque chose par leur écriture et j'ai la chance de les rencontrer, comme on dit à Abidjan, en vis-à-vis. Voilà, ce sont des gens
dont... Mais c'est mu par des interrogations, visiblement.
Je pense que ça faisait partie de mes interrogations et ce qui explique aussi mon livre sur les reines d'Afrique. Je pense que c'est comme une espèce de fil rouge qui a toujours guidé ma vie intellectuelle, mais sur les questions de notre positionnement dans le monde et dans l'histoire.
Oui. Le défi de l'Afrique, c'est d'apprendre à se sentir l'héritière de tout ce qu'il y a d'universel dans toutes les civilisations humaines. C'est de s'approprier les droits de l'homme, la démocratie, la liberté, l'égalité, la justice, comme l'héritage commun de toutes les civilisations et de tous les hommes. De s'approprier la science et la technique moderne comme le produit de toute l'intelligence humaine.
M comme mission civilisatrice.
Les rosettes de Doudou Ndiaye Rose pour un sol majeur et pour accueillir, alors pas vraiment le triste discours de Dakar de Nicolas Sarkozy, mais plutôt vos reines d'Afrique à vous, Sylvia Serbin, ces reines qui nous ont fait rêver chez 7 milliards de voisins. Cela dit, votre livre sur ces femmes qui ont fait l'histoire du continent de façon anonyme, ça pourrait être l'une des réponses au discours de Dakar.
Quand j'ai entendu ça, je me suis dit comment la France peut mettre quelqu'un d'aussi ignare à sa tête ? J'avais l'impression de relire des vieilles archives du 19e siècle avec ces explorateurs qui disaient... Mais c'était exactement les mêmes mots. Et aujourd'hui, je comprends certains combats quand on parle de racisme systémique. Et tant que la France ne revient pas sur ces mensonges qu'elle a inculqués aux mentalités sur d'autres peuples, il y aura toujours un fossé entre ces Français qui se sentent rejetés, marginalisés, à cause d'une vision tronquée de ce qu'ils sont.
Mais cette entreprise qui est la vôtre, Sylvia Serbin, de rendre visible la contribution nègre à l'histoire, Césaire, si
oui,
tu nous entends,
bien sûr.
On vous l'a fait payer cher au moment de la publication de votre livre. Après 10 ans de recherche, vous racontez bien que vous avez vécu un feuilleton judiciaire terrible. En cause, une traduction par une boîte d'édition allemande de votre livre. C'est une traduction qui s'est en fait avérée être un véritable sabotage.
Ah oui, mais c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a des résistances dans les mentalités, ce que je viens de vous dire. Et donc, mon éditeur avait un partenaire allemand qui a demandé à faire une traduction allemande de mon livre. Ça s'est fait un peu dans mon dos, mais je l'ai su après. Et sur le livre, il faisait 300 pages. Il y avait 400 paragraphes qui avaient été supprimés et le reste avait été réécrit. Donc, tout ce qui concernait les résistances, des sociétés organisées, des grands empires, tout ça, ça avait été dilué. Et à la place, c'était des images de noirs cannibales, enfin arriérés. Voilà,
révisionniste. Exactement. Et raciste.
Exactement, raciste et révisionniste, et sous mon nom. Donc les gens qui ne sachant pas ça penseraient que moi, une intellectuelle noire, qui se prétend historienne, ose écrire au XXIe siècle un livre qui dénigre l'histoire de l'Afrique et dénigre les Noirs. Alors, j'ai dû faire une procédure qui a duré plus de 5 ans et j'ai été systématiquement déboutée par la justice française.
Puisque oui, vous parlez de traitement discriminatoire.
Ah oui, oui, ben, ça a été jugé par d'autres experts comme discriminatoire. Mais ça n'a pas gêné la justice française qui a estimé, puisque c'est l'histoire de l'Afrique, c'est pas grave. Ils m'ont dit c'est du détail. Voilà.
Ça nous rappelle quelque chose. Voilà. Exactement.
Comme m'a dit mon avocat.
Alors, vous expliquez bien dans l'introduction de votre livre que c'est cette petite question de votre fille de 8 ans qui vous dit mais tout le monde a ses reines, etc. Nous, les Noirs,
est-ce qu'on n'existait pas avant,
qui vous a donné cette impulsion. Mais je pense que c'est un long travail de germination. Vous le racontez dans votre manière de faire du journalisme et de vous intéresser à l'histoire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de zoomer sur ces figures féminines qui appartiennent aux ténèbres de l'histoire, finalement?
En fait, quand j'étais dans mon enfance au Sénégal, donc le soir, en rentrant de l'école, on était assis chez des petits camarades, et puis les grands-parents ou un vieil oncle racontaient toujours des histoires, et c'était souvent sur les grands royaumes du passé. Et parmi ces personnages dont j'entendais parler, il y avait des femmes, des reines, des combattantes, voilà, et notamment la reine d'Ateyala, dont je parle dans mon livre, qui était une reine sénégalaise qui s'est battue au 19e siècle contre la colonisation française. Et quand j'étais étudiante en histoire à Paris, c'était au moment du féminisme émergent, et on avait les féministes qui venaient dans les amphis, oui, révoltez-vous, nananère et tout ça. Et à ce moment-là, on a observé que dans plein de pays, on commençait à faire émerger des portraits de femmes dans l'histoire, même des concubines de rois. Il fallait absolument donc montrer qu'il y avait des femmes qui avaient joué des rôles. Et moi, j'avais demandé à un de mes professeurs, mais je ne comprends pas, puisque je me suis spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, on ne parle jamais de personnages féminins. Et il m'a répondu du haut de son savoir, les femmes noires n'ont joué aucun rôle dans l'histoire. Et si vous avez entendu parler de personnages, ce sont des mythes inventés par des populations primitives pour essayer de valoriser un peu les femmes. Et ça a été un peu le déclic qui m'a donné envie de rechercher partout dans les archives ce que je pouvais trouver sur des personnages féminins.
Alors, j'aimerais qu'on partage ensemble au moins deux figures de votre livre. On n'a pas choisi les plus connues, ni Néfertiti, la reine d'Égypte, ni la reine Poukou de Côte d'Ivoire, ni la Kaïna des Aurès, mais cette fameuse reine Zinga Mbandi Ngola, que vous citez souvent, hein, qui a lutté pendant près de 40 ans contre les tentatives d'invasion portugaise de son pays, jusqu'à sa mort en 1663, à l'âge de 82 ans. Alors, il faut imaginer qu'à partir du XVe siècle, les pays européens, Portugal, Espagne, Angleterre, France et Hollande, se lancent à la conquête de nouveaux territoires à travers le monde. C'est, on le rappelle, le temps des explorations maritimes. S'agissant du continent africain, cet intérêt entre guillemets européen donne lieu à des déportations massives en esclavage, des populations évidemment les plus vigoureuses. Et c'est ce qui arrive au royaume de Ndongo, qui est un royaume prospère, rebaptisé Angola par les Portugais, et qui va mener la plus longue résistance africaine contre l'envahisseur européen, puisqu'elle va durer une centaine d'années. C'est dans ce contexte qu'arrive en bout de chaîne, on est au XVIIe siècle, la reine Anne Zinga.
C'est vraiment un personnage hors norme de l'histoire de l'Afrique. Et donc, elle était fille et sœur de roi. Et elle arrive sur le trône d'une Ndongo en 1624, et aussitôt elle reprend le flambeau de la résistance menée par ses ancêtres. Alors là, dans tous les documents militaires portugais, notamment d'archives de l'époque, on la présente comme une stratège incroyable. Elle va envoyer des espions à Luanda, qui était devenue la ville coloniale, pour voir comment s'entraînaient les troupes portugaises, pour adapter ses propres armées à leur façon de combattre. Et elle menait elle-même ses troupes à la guerre. Ensuite, elle va choisir les périodes des pluies, quand les Blancs étaient totalement affectés par le paludisme ou bien par les intempéries, pour attaquer. Et ce qui fait que pendant près d'une quarantaine d'années, elle va réussir à résister aux Portugais, qui vont tenter des traquenards, des raids de toutes sortes pour essayer de l'attraper. Et chaque fois, elle va réussir à s'en sortir. Alors évidemment, elle ne pourra pas empêcher l'émiettement de son royaume. Elle se replie sur le Matamba, qui est un autre royaume. Et elle reconstitue son pouvoir là-bas. Elle écrit au roi du Portugal et au pape à Rome pour leur dire de laisser son pays tranquille, parce qu'elle parlait parfaitement le portugais et elle l'écrivait. Et donc, c'est vraiment une femme extraordinaire qui a laissé une empreinte très forte. Et d'ailleurs, je peux dire que dès le XVIIe siècle, elle était connue dans les grandes cours d'Europe parce qu'elle a suscité énormément d'écrits en Allemagne, en France, en Italie, au Portugal, où les gens étaient surpris de voir une reine noire résister aussi longtemps à une armée européenne, à une époque où on disait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs.
Merci Sylvia Servin pour ce parcours très 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 résumé et hors norme de la reine Nzinga, qui a toujours appris à réagir en homme d'État, toujours d'égal à égal avec son interlocuteur.
Absolument. Et elle a mené ses négociations comme elle a voulu.
Pour dire que dans l'Afrique précoloniale, contrairement à ce qu'on pense ou à ce qu'on dit, la femme avait un statut presque conséquent.
Exactement. Bon, pas dans toutes les sociétés ni dans toutes les régions, mais dans mon livre, je parle de 22 personnages différents dans des régions et des sociétés différentes. Et on voit à chaque fois qu'elles ont quand même eu, il y en a eu qui ont eu des rôles importants, et même des femmes du peuple qui se sentaient investies chaque fois que leur pays était en danger et qui arrivaient à mener des mouvements, qui arrivaient à prendre part à l'action. Et je pense qu'au fur et à mesure de la colonisation par des sociétés patriarcales, où le pouvoir ne pouvait être concentré qu'entre les mains des hommes, tout ce statut féminin antérieur à la colonisation a progressivement été, au fur et à mesure que les sociétés s'occidentalisaient, a été complètement rabaissé. Aujourd'hui, les femmes sont obligées de se battre pour retrouver des droits que leurs ancêtres avaient déjà.
Alors moi, je vous avoue que mon cœur penche beaucoup pour une autre figure que vous avez classée parmi les résistantes et qui s'appelle Harriette Mann. C'est un petit bout de femme, très modeste comme ça, dans sa robe de domestique. On a une photo sous les yeux. Et en fait, c'est une véritable icône de l'histoire afro-américaine qui a carrément osé défier le système esclavagiste, puisqu'elle a consacré sa vie à libérer des Noirs en esclavage après avoir été elle-même en fuite. Elle est née dans une plantation de tabac du Dorchester, au Maryland, vers 1820. Son vrai nom, c'est Araminta Ross, qu'elle a changé pour Harriet, qui est en fait le prénom de sa mère. C'est une des rares escapées des 11 enfants de ses parents. Presque tous ses autres frères et sœurs ont été vendus par le maître blanc chaque fois qu'il avait besoin d'argent. Puisqu'on le sait, dans le système esclavagiste, le noir est considéré comme une marchandise. Il peut être acheté, vendu, échangé au même titre que des bœufs ou de matériel agricole. Alors, savoir aussi que les grands-parents d'Harriet, eux, venaient d'Afrique et qu'en fait, elle fait partie d'une deuxième génération de Noirs nés en Amérique.
Exactement. Alors, Harriet Tubman, c'est une figure aussi qui est très respectée et qui a été intégrée au patrimoine historique national américain, parce que pendant longtemps, on a voulu faire une séparation entre l'histoire des Noirs, mais Harriet Tubman, elle, sa figure est incontestable. Et donc, cette fille, un jour, donc, elle était dans cette plantation, et un jour, elle apprend que le maître, qui a encore besoin d'argent, cherche à vendre un lot d'esclaves. Donc, elle décide de s'enfuir. Elle a à peine une vingtaine d'années. Et elle décide de s'enfuir. Elle part de nuit. Comme elle ne sait pas lire, elle va suivre l'étoile polaire qui mène vers le nord. puisqu'à l'époque, dans le Nord, il y avait des États abolitionnistes qui ne pratiquaient plus l'esclavage pour la plupart. Et elle arrive à Philadelphie, donc qui est une ville du Nord, et là, elle se rend compte que ce n'est plus le même endroit, puisqu'elle voit des Noirs circuler librement, travailler, donc elle se rend compte qu'elle est en sécurité. Elle trouve un emploi de blanchisseuse, et sa seule préoccupation maintenant, c'est de retourner, de faire le voyage en Saint-Serverse pour faire évader sa famille. Et elle va faire des économies, elle va travailler pendant 2 ans, faire des économies pour préparer ce voyage, et elle repart. Sur le chemin, elle est obligée de se déguiser chaque fois pour ne pas se faire repérer. Et elle arrive comme ça à Dorchester, donc c'est dans les années 1850, déguisée en vieille femme. Et là, en 3 ou 4 voyages, elle va réussir à faire partir, toujours en voyageant de nuit, dans des sous-bois, sa famille, quelques voisins. Et tout de suite, son nom commence à être murmuré dans les maisons d'esclaves et on commence à parler d'elle. Et à ce moment-là, elle sera approchée par des militants d'un réseau clandestin d'évasion qui s'appelle le chemin de fer clandestin, Underground Railway. Et on va lui demander de servir de passeur pour aider des Noirs à fuir l'esclavage pour aller vers des États du Nord. Et donc, en une dizaine d'années, en 1850 et 1860, elle va arriver à faire fuir plus de 300 personnes sans avoir jamais perdu ni une femme, ni une enfant, même des femmes enceintes. C'est toute sa fierté. Et donc, c'est devenu un personnage qui est enseigné dans les écoles, noir comme blanc. Donc, tout le monde connaît Harriet Tubman. Et elle a un jour de commémoration officielle aux États-Unis. Alors, dernière petite anecdote, il était prévu que le nouveau billet de $20 américain reproduise son visage. Tout était prêt. Et quand Trump est arrivé, il a décidé de bloquer tout ça. Voilà.
En tout cas, vous renouez avec la voix de conteuse, Sylvia Serbin. Votre talent de conteuse, d'ailleurs, a été salué. Hein, j'ai vu ça par la critique. Est-ce que c'est une dimension importante à vos yeux dans ce travail de transmission, le fait de transmettre en comptant ?
Oui, c'était important pour moi. Mon livre s'adresse au grand public. Hein. Je n'ai pas voulu faire un travail universitaire qui serait enfermé dans une bibliothèque. Et puis, ça me rappelait aussi la façon dont moi, j'ai reçu cette histoire. C'était par la tradition orale. Donc, je pense que ce devoir de conteuse, ben, il est en moi.
Une dernière question pour En sol majeur. Est-ce qu'il ne faut pas conseiller ce livre, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire, non seulement à toutes les petites filles et petits garçons noirs, oui, et blancs ?
Absolument, parce que ces femmes se battaient pour la dignité, se battaient pour la liberté, qui sont des valeurs universelles. Donc, quel que soit le peuple, ce sont ces mêmes valeurs qui nous portent et qui nous poussent. Donc, ce n'est pas la couleur qui doit faire la différence. Et donc, je pense que ce soit au Japon, en Inde, partout, on peut lire ces histoires et voir que nous sommes mus par les mêmes choses en tant qu'êtres humains.
Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire aux éditions Medunéter, c'est voilà. Ça, c'est un de vos futurs livres de chevet, vous qui nous écoutez, signé Sylvia Serbin. On va tenter de se quitter avec la reine du Summertime, j'ai nommé Ella Fitzgerald.
J'adore.
C'est vos années d'adolescence, c'est ça?
Exactement, étudiante.
Here we go. Summertime and the living. Fish are jumping, and the cotton is high. Your daddy's rich, and your ma is good looking. Don't you cry.
En Sol majeur, émission à retrouver en podcast sur votre application préférée, Pure Radio. Ça, c'est un conseil maison à retrouver également sur nos réseaux sociaux, Facebook ou Twitter. Et puis, bien sûr, derrière votre poste, chaque samedi, chaque dimanche, à 14h10, temps universel. Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki. On vous retrouve la semaine prochaine, pour de vrai, dans nos studios de RFI avec Estelle Sarabulle. À la semaine prochaine.
Tout à l'heure.